Bonjour les amis.
Salut, salut Charline.
Ça va, on est content de soi là, ça va.
Quoi?
Non, mais hier c'était la foire à la saucisse.
Oui, hein, un petit peu.
Oui, bah à cause de vous.
Ah bah pas moi, je suis végétarien.
En plus Guillaume, il a mené l'interview de la Madeleine Proust.
Ah oui,
alors
ouais.
Ça c'était
l'interview à la Guillaume.
La Madeleine Proust est de gauche.
Oui,
mais c'était important de le savoir, les gens veulent savoir ça.
Résultat, tu te sentis bien à l'aise entre Franc-Comtois.
Ah oui, et alors?
Bah alors foire à la saucisse quoi.
Il est foutu ce pelage, il faut que j'efface mettre une queue.
Oui, on n'a pas tout pigé.
Ah bah ça m'étonne.
Non mais attendez, vous avez appris des choses pendant mon interview quand même.
Disons que certaines questions existentielles ont été soulevées.
Comment ça se fait que les fabricants n'ont pas encore pensé à leur mettre une clé USB dans le cul?
Oui, voir à la saucisse un peu quand même. Elle a raison.
Attendez, c'était une invitée sympa.
Ah, ça, oui,
elle vous a même apporté des cadeaux.
Le premier prix est attribué à Charlie.
Oh, qu'est-ce qu'elle a gagné?
Qu'est-ce que j'ai gagné?
C'est un Jésus de Morteau et du Comté.
De la saucisse,
oui,
voilà.
Oui, de la saucisse et du fromage pour tout le monde.
En plus, apparemment, elle avait eu des infos sur la sexualité de Girardeau.
Alors, Hippolyte,
oui.
Une plus petite parce que t'as encore pas beaucoup entendu.
C'est grave.
Mais là, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, on mange les saucisses et puis on voit.
Ah non.
Non, ça se sentait que c'était pas la bonne réponse,
non,
Alexis.
Non. Aujourd'hui, je veux plus entendre ce genre de choses.
D'accord.
Au boulot, puis faites chauffer les ordi.
D'accord, patron.
Tu sais, parfois, quand je vois des gens comme Charline, je me dis...
Comment ça se fait que les fabricants n'ont pas encore pensé à leur mettre une clé USB dans le cul?
Bonjour la Franche-Comté, non, la France Inter, pardon, la France Inter. Bienvenue dans l'Open Space, on vous a réservé une part de start-up avec la crème de l'actualité. Plusieurs universités bloquées ont organisé des partiels à distance. Les étudiants passent les examens écrits et oraux depuis leur chambre, devant leur ordinateur.
Trotsky
a été assassiné à Mexico en 1940.
En quelle année?
En 40.
Des centaines d'espèces d'animaux et d'insectes disparaissent en France, et particulièrement les oiseaux. Alors, comment on fait pour les sauver? Le week-end dernier, les habitants qui ont un jardin étaient invités à compter les oiseaux. C'est bien compté. La science, il n'y en a plus. La science et la technologie n'ont jamais été aussi pointues. Et malgré cela, les théories du complot n'ont jamais été aussi folles. L'une des plus répandues étant que les reptiliens manipuleraient l'humanité en infiltrant nos élites.
Vous aviez raison, ils existent. Voilà ce qu'il en reste.
Lui, l'actualité, il en fait de la compote. Il est compotiste.
Oh, c'est génial. Oh, c'est du génie, ça.
Avec Vizorek.
C'est brillant. C'est brillant.
Être lancé comme ça, c'est... ça rappelle Apollo 13. Autour de la table, une belle équipe. Une belle équipe, malgré tout. À 17h20, celui qui est le fils caché de Pascal Sevran, c'est vous dire s'il a un petit rejet du père, c'est Chewbacca, bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
J'ai envoyé mon vieux, tu vas voir. D'un gars qui s'appelle Léon.
C'est pas vrai?
Ouais, ouais.
Widgets.
Widgets.
Très bien. Widgets
de, un ami à toi.
Très bien. Ah oui, d'accord. Celui qui est à la contradiction, ce que Mamadou Gassama est à l'alpinisme, il le pratique dès qu'il
Mamoudou.
Peut.
Mamoudou.
Mamoudou, j'ai
l'air. Ouais,
j'ai passé
contredis.
La matinée à bosser.
Je vous contredis là-dessus.
C'est vous, Guillaume Maurice.
C'est moi. Bonjour à tous. Eh bien, je me suis intéressé à Mamadou Gassama. Je suis allé voir le généreux peuple de France, mais aussi le très sceptique peuple de France.
C'est un peu gros, mais je ne sais pas si c'est vrai ou faux.
Le complot des escaladeurs maliens. On sait pas.
Et enfin, 17h40, celle qui ne fait pas que commenter les livres, puisqu'elle va bientôt elle-même sortir son livre de recettes, mais sans meilleur cocktail pour éviter la dépression. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
De mon biotope naturel.
Ah.
La boîte de nuit.
Ah, oui, mais... Je voulais pas vous balancer. Mais...
Et vous pouvez réagir bien sûr sur Twitter, hashtag par Jupiter. Et voici, attendez, qu'est-ce que... Ah oui, j'ai changé mon lancement, c'est ça. Voici...
C'est très artisanal tout ça, vous savez.
C'est fait à la main. Roulez sous les aisselles, ma présentation PowerPoint de notre invité qui va s'afficher à l'instant entre vos oreilles. Vous voyagez durant votre enfance au gré des affectations de votre père, militaire dans l'armée de l'air. Vous passez quelques années en Guyane où vous observez les oiseaux d'Amazonie. Vous prenez même une année sabbatique pour les photographier. De retour à Paris, vous entamez des études de biologie, mais vous y mettez un terme parce que comparé à l'Amazonie, les amphithéâtres bio sont moins fournis en diversité animale. Vous vous tournez alors vers un autre biotope, le monde du spectacle. Vous faites,
et les boîtes de nuit.
Si vous faites de la scène et des vidéos YouTube, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes
Max Bird.
Yes. Même qu'on l'aime beaucoup.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
par Jupiter.
Bienvenue Max Bird.
Mais merci beaucoup, merci de m'accueillir.
Mais avec joie, vous serez le 8 juin à la Cigale à Paris avec votre encyclospectacle et puis en tournée dans toute la France. Ça va de Lyon à Dunkerque en passant par à Ludres, c'est ça exactement. Saint-Cyr-sur-Loire, on donnera quelques dates car vous allez sillonner toute la France et nos auditeurs auront donc l'occasion de vous voir...
En encyclospectacle.
Exactement. Oui, totalement.
Que vous définissez de manière assez drôle, je vous laisse...
Moi, en général, oui, je dis que c'est une sorte de C'est pas sorcier animé par Jim Carrey. ça résume bien le délire, on va dire.
C'est vrai, parce que là, on ne vous voit pas à la radio, sauf si vous êtes sur YouTube, où je pense qu'on peut voir l'émission
Franceinter.fr.
Franceinter.fr, monsieur.
On peut la voir en direct, en live.
Et en direct live, voilà. Le gars est fort en mimique.
Oui, c'est ça, j'ai un humour qui n'est pas très radiophonique, de manière générale.
Alors, c'est pas entièrement vrai, parce que encyclospectacle, c'est-à-dire que vous avez envie que les gens repartent, certes en ayant ri, mais aussi peut-être en ayant appris quelque chose.
Ouais, enfin, j'ai pas vraiment envie qu'ils apprennent quelque chose, mais moi, ça me passionne de parler de ça. Donc, ça m'arrange bien que des gens l'écoutent, mais je me sens pas investi d'une mission de diffuser le savoir à travers mes spectacles. Mais moi, c'est de ça dont j'aime parler. Et j'adore l'idée que des gens peuvent avoir une naissance d'une passion ou d'une curiosité pour quelque chose en ressortant du spectacle, un peu comme toi aussi.
Mais
comme vous, je sais pas comment on doit dire.
Tutoyons.
Voilà.
Et non, parce qu'un spectacle d'humour où on parle de d'Édipe, parce qu'on dit Édipe,
et oui.
Ouais, on se fait engueuler sinon.
Ah ouais.
De Plutarque, des dinosaures. Et de l'effet physique de l'alcool dans le corps.
Ouais.
C'est assez rare. Alors qu'est-ce qui fait qu'un sujet vous interpelle? Est-ce que vous écrivez vos spectacles sur Wikipédia?
Non, mais je pense que Wikipédia me pique quelques trucs des fois. Non, en fait, moi, vraiment, c'est des sujets dont je parle dans la vie de tous les jours et qui m'intéressent déjà, de prime abord, on va dire, et dont j'aime parler. Et en fait, j'en parlais déjà avant de faire un spectacle, parce que ça m'intéressait. Mais c'est surtout, on va dire, les thèmes comme les dinosaures, les oiseaux, l'Égypte, ou des trucs comme ça. C'est des thèmes qui, de prime abord, vont pas passionner les gens. Moi, je lis un truc dans un livre, j'ai envie d'en parler aux gens, puis les gens, ils font, oui, bon, on s'en fiche un peu.
Est-ce que justement, c'est l'humour qui fait que ça les rend aussi intéressants?
Et je pense que l'humour vient de là, mon sens de l'humour. J'ai dû le forger inconsciemment, parce que, à vouloir que les gens s'intéressent à ce que je raconte, inconsciemment, j'y mets des blagues, des mimiques, des imitations corporelles, des comparaisons avec la culture populaire. Enfin bref, inconsciemment, on fait ça. En fait, ce spectacle, c'est comme si je l'avais écrit inconsciemment toute ma vie.
Donc vous seriez un bon professeur de plusieurs domaines.
J'aurais adoré. Finalement, je peux m'adresser à des classes de plus en plus grandes. Donc c'est cool.
Ça, c'est pas mal.
C'est très chouette.
Mais alors, il y a des sujets que vous maîtrisez. Et puis, je suppose qu'il y a des sujets que vous ne maîtrisez pas au départ.
Oui,
peut-être la mythologie, ces choses-là. Ou...
Mais en fait, il y a certains sujets, effectivement, que j'ai abordés, par exemple l'alcool, je me suis dit, ça ferait un bon sketch parce qu'effectivement.
Juliette, oh, dis donc, Juliette a tiqué toute seule.
Ah bah, je l'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps en boîte de nuit.
Oui, c'est ça. Au bon endroit.
Comme ça, nos auditeurs savent comment on sélectionne. Ils nous demandent souvent comment est-ce que vous choisissez vos invités. Sachez, chers auditeurs, que Juliette les croise en boîte de nuit. Donc, si vous croisez Juliette, n'hésitez pas à vous faire inviter, vous aussi. Parenthèse terminée.
J'étais déjà invité. Mais oui, par exemple, l'alcool, c'est vrai que c'est un sujet, je me suis dit, ça ferait un bon sujet, je pense que ça intéresserait vraiment les gens de savoir ce qui se passe. Donc, je me suis renseigné, et avant de faire un sketch ou avant de faire une vidéo, j'ai vraiment à cœur de pouvoir parler de ce sujet en discussion après, j'ai vraiment à cœur de pouvoir répondre aux questions. En général, ça me passionne, donc je fais pas beaucoup d'efforts pour apprendre tout ça. Quoi.
Vous parlez des vidéos, et c'est vrai que c'est l'autre facette de votre travail, et vous demandez au public, est-ce que dans la salle, il y a des oisillons?
Oui.
Qu'est-ce que c'est qu'un oisillon?
Ce sont le nom de mes abonnés, en fait. C'est comme ça que c'est fréquent sur YouTube, en fait, de donner un nom, on va dire, aux abonnés. Ça donne une petite côté à la famille.
Oui.
Et moi, le truc est venu assez naturellement, quoi. Les gens, quand ils me croisent dans la rue, ils font cuicui, donc.
Il faut comment?
Cuicui. Tu sais que je termine toutes mes vidéos en disant cuicui en fait, et du coup les gens ils me croisent et font cuicui.
Sûr, c'est pas cuicui plutôt.
C'est vrai que tout à l'heure vous avez dit que je jouais à la Cigale le 8 juin, c'est faux, c'est le 8 juin que je joue à la Cigale. Ouais, très important.
Oui, alors moi je voulais savoir la différence parce que nous on fait partie, Guillaume et moi, d'une génération qui avons raté la marche du YouTube ou qui ont peut-être pas voulu l'apprendre, mais notre génération d'humoristes l'a loupé. Quelle est la différence de boulot que représente la scène et le média?
C'est une très bonne question, surtout que. Au début, moi, je viens de la scène et j'ai fait YouTube après. Et ça a été très, très, très difficile pour moi de mettre une caméra et d'être drôle devant. Et en fait, à partir du moment où tu peux refaire des prises, t'es jamais bon, en fait. T'as jamais cette espèce d'urgence que t'as sur scène. Sur scène, il y a un public qui est là, t'as pas le choix. Et les gens qui font du YouTube et qui veulent aller sur scène, eux, c'est l'inverse. Ils arrivent pas, il y a des gens, et ils peuvent pas refaire la prise. Et en fait, je pense que ça vient de là où on a commencé. Et moi, je préfère la scène parce qu'il y a un côté vivant qui est unique. Mais je suis plus satisfait d'une vidéo quand elle sort. Je suis très satisfait parce que je l'ai bossé à fond. Alors que sur scène, je sors très rarement satisfait. Je me dis tout le temps,
Donc, faut regarder les deux.
Voilà.
Exactement. Et vous aurez l'occasion d'ailleurs parce que Max Bird Bard est en tournée dans toute la France avec l'Encyclospectacle. Vous serez notamment le 13 octobre au Palais de la Méditerranée à Nice, le 10 novembre au Théâtre Féminin à Bordeaux. Vous serez aussi le 20 décembre à Nantes et puis le 11 janvier à Brest. On donnera quelques dates pendant l'émission.
Je reviens à Paris, à l'Européen, à partir du 27 novembre pour une programmation régulière. Donc pour ceux qui ne peuvent pas venir à la Cigale, il y aura plein de dates à l'Européen.
La Cigale, c'est le 8 juin. Max Bird, avec nous. Et cui-cui. À tous vos fans qu'on embrasse très fort. Vous êtes sur France Inter. Tiens, mais je ne connaissais pas ce morceau des Beatles, vient de me dire Alex Vizorek. Évidemment, c'est les Doors.
Ah, c'est ça, bien sûr.
Peace Frog. Et c'est programmé par qui ?
Monsieur Jubaka.
Ah, c'est Jubaka.
Qui est ici présent pour accompagner notre invité Max Bird, qui est avec nous et également autour de la table.
On a vu Guillaume Meurice et il se dit que Juliette Arnaud viendra faire une chronique littéraire.
Max Bird qui ramène tous ses oisillons sur France Inter, on les embrasse et vont être informés, c'est moi qui vous le dis.
Jupiter, c'est un style. Jupiter, c'est la mode.
Oh.
Jupiter, c'est
le journal. Presque 17h17.
Parce que je le vaux bien.
Et on commence par les titres.
Oui, bah, Serge Dassault nous a quittés hier.
Et oui, à force de vendre des armes, il a fini par en passer une à gauche.
À droite, Emmanuel Macron a organisé aujourd'hui un nouveau sommet de sortie de crise pour la Libye.
Oui, s'il s'y prend comme avec la SNCF, désolé pour les Libyens, vous allez garder le cul dans les ronces.
Et des brèves ?
Oui, il faut penser brève, les amis. Et commençons par une éphéméride.
Oui, car aujourd'hui, c'est la journée internationale des casques bleus.
Et oui, et je pense que ça devrait être un jour férié, figurez-vous.
Ah bon?
Bah, bien sûr, parce que c'est plus logique pour rendre hommage à l'ONU de ne rien faire.
Passons au reste de l'actualité. On a appris hier donc, la mort de Serge Dassault, décédé d'une crise cardiaque.
Et le Figaro en a même fait sa une. Ça, je tiens à le dire.
Ça me paraît normal,
étonnant.
Alex.
Non, bah écoutez, mais d'habitude, quand on parle de Serge Dassault, le Figaro, il fait rien et vous râlez. Alors là, il est dans l'actu. Il faut le dire aussi quand c'est bien.
Oui. Donc Serge Dassault est donc décédé.
Voilà, et comme beaucoup de ses affaires de corruption, il va donc finir enterré.
Passons à Gérald Darmanin.
Oui, il était invité sur RTL et Elisabeth Martichoux lui a demandé.
Combien d'aides sociales ou d'allocations aujourd'hui en France ?
Il y en a beaucoup, alors je sais le nombre exact, je ne sais pas.
Le ministre du budget ne sait pas combien.
Non, parce que je pense que ça dépend beaucoup aussi de si vous mettez les aides des collectivités locales. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a trop.
Il y en a trop. Mais qu'est-ce qui se passe, mon GG? T'as payé ta cotille aux Républicains, t'es de retour.
Revenons sur l'affaire Mamoudou Gassama.
Oui, sur RMC, on a demandé à Florian Philippot ce qu'il en pense.
Jeune sans-papier de 22 ans qui a sauvé ce petit enfant de 4 ans va devenir français et sapeur-pompier. C'est le chef de l'État qui nous l'annonce. C'est bien ?
C'est bien.
Voilà, sobre.
Sobre.
Efficace. Ça aurait été idiot de pas beau d'argumenter.
Écologie à présent, les députés ont donc rejeté l'interdiction du glyphosate.
Oui, Nicolas Hulot, ça doit être le genre de mec qui te jure fidélité le jour de son mariage et juste après la nuit de noces, il te retrouve avec 3 stripteaseuses.
Mais le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a assuré que le glyphosate sera interdit un jour et qu'il n'y a pas besoin d'une loi pour
Mais
ça.
Bien sûr, et on peut le croire sur parole, ce gouvernement, c'est pas le genre à ne pas tenir des promesses, évidemment.
Enfin, non.
D'ailleurs, il y a qu'à vérifier, comme l'avait annoncé Macron en décembre dernier, il n'y a plus de SDF dans les rues, donc voilà.
Le nombre de fumeurs en France a diminué d'un million de personnes en un an.
Mais un million, avec ou ceux qui sont morts entre-temps
une baisse historique, en particulier chez les plus jeunes.
Eh ben voilà, la baisse des APL, c'était une mesure de santé publique.
À l'effet divers, le détenu radicalisé qui s'était évadé à Brest a été interpellé en Espagne.
Qu'est-ce qu'ils ont tous les radicalisés à vouloir aller en Espagne? Manuel Valls. Mais pareil, Barcelone.
Sport. Oui. L'équipe de France a battu l'Irlande 2-0.
C'est bien fait la vie, juste après que l'Irlande ait dit oui à l'avortement et s'est fait bien baiser.
Allez. Merci pour cet instant de poésie. Délai brève.
Pas la plus fine. J'admets, c'est pas la plus fine. Une start-up gersoise invente le parasol qui ne s'envole pas. Et apparemment, il se serait inspiré de la cote de popularité d'Edouard Philippe.
La dernière.
Ouais, mais ça, c'est celle qui m'a choqué le plus, figurez-vous. Nanterre, 2 points. Un enfant chute de 4 étages et s'en sort presque indemne. Mais il était où, Mamadou Gassama?
Mamoudou.
Mamoudou. Mais maintenant qu'il est français, il en se coupe plus.
Merci, Alex Vizorek.
Ça m'énerve.
17h25.
Eric Brunet sortait de ce corps immédiatement.
Mais en plus, il doit y en avoir qui veulent faire ce genre d'exploit maintenant et les filmer pour être naturalisés.
Attendez,
tout
les
ça.
Enfants c'est... tombaient pas trop vite.
Qu'est-ce qui se passe si un deuxième truc similaire arrive juste après? Est-ce que tout le monde crie au complot, au scandale?
Au plagiat.
Ça, c'est le plagiat. Ça va être le sujet.
Bienvenue sur les grandes gueules, RMC. Tout de suite, on va passer au premier sujet avec Max Bird. Les étudiants de certaines universités bloquées sont en plein partiel depuis leur chambre. Examen écrit ou oraux, ça se passe derrière leur ordinateur avec peut-être maman cachée sous le bureau, on ne sait pas. Attention parce que ça, si ça arrive, il y a des indices.
Je vous demande de constater par vous-même. 20 à tous les contrôles. Géographie, 20 sur 20.
Oui.
Ouais, français.
Ouais. Toi en français, 20 sur 20, bravo.
Anglais, 20 sur 20.
Bah, celle-là, tu vois, on va partir, celle-là.
Mathématiques, 21 sur 20.
Non, là, y a pas. Hein.
Le professeur a voulu marquer le coup. Hein.
Fais de toi.
Et ça fait 2 semaines que ça dure.
2 semaines, t'en compte, presque 15 jours.
Je suis fier de toi, comme dit ton père. On est désolé, monsieur Van de la Brique, mais si notre fils, il a triché... Bah, c'est peut-être aussi, il faut le comprendre, parce que c'est trop de pression. Votre trimestre à l'essai, tout, la nouvelle vie, tout ça. Il a voulu bien faire.
Les Tuches, le film d'Olivier Barrault avec Isabelle Nanty, Jean-Paul Rouve et M. Van den Brick étant Guy Lecleus, je prononce à la belge. Alors, Max Bird, voilà pour ces étudiants qui sont en train de passer leur partiel à distance, donc en répondant à des QCM sur leur ordinateur ou par visioconférence pour les examens oraux.
Skype.
Oui, exactement. Admettons que vous vous trouviez dans cette situation, dans votre chambre d'étudiant ou chez vos parents, vous passez l'examen depuis chez vous. Est-ce que vous êtes tenté d'en profiter? Comment
ça se
passe?
Oui, moi je pense qu'il y a une équipe d'experts qui est de l'autre côté de l'écran. Ils sont tous au taquet avec des signes lumineux le plus silencieux possible. Mais je pense qu'ils ont dû adapter les contrôles pour que ça soit plus de la réflexion et pas de la juste ressortir des connaissances.
Bien sûr, les enseignants ont anticipé en disant on va essayer de ne pas corriger la copie du papa ou de la maman. Vous trouvez ça curieux? Parce que c'est vrai que si on veut passer ses examens par Internet, on peut suivre ce qu'on appelle des MOOC. C'est-à-dire un cursus par Internet, et voilà. Là, c'est curieux.
Mais moi, c'est vrai que je connaissais pas mal de jeunes élèves, justement, qui ont toujours fait à distance. En Guyane, oui. Notamment, il y en avait certains aussi qui travaillaient comme ça.
Ah oui.
Donc, en fait, c'était quelque chose déjà, qui me semblait déjà un petit peu dans l'air du temps. Oui. Mais là, c'est surtout l'urgence du truc. Ils peuvent pas aller à l'université, donc on est obligé de trouver des méthodes. Mais...
Effectivement.
Non, mais moi, ça me paraît normal et je trouve ça cool. L'idée aussi que des gens qui veulent reprendre les études puissent le faire via cette. C'est éco-technologie, je trouve ça cool.
Mais est-ce que du coup, ça pourrait amener à l'école du futur qui est, on ne devrait même plus se rendre tous au même endroit.
Ce serait dommage. S'il y a quand même une fonction de l'école qui est sociale. Quoi, je
se faire tabasser dans la cour.
Ouais, voilà, l'important, ça forge. Moi, si on ne m'avait pas tapé parce que je parlais d'oiseaux, je pense que je n'aurais pas développé le sens de l'humour.
Max Bird,
vous
preniez le cas de la Guyane où vous avez vécu et grandi une partie de votre enfance. Donc, comment ça se passait les cours à distance?
Non, mais là-bas, il y a des écoles et les gens vont à l'école.
Vous voulez pour les études supérieures?
Sauf que des gens que j'ai rencontrés là-bas, j'ai rencontré des gens là-bas. Effectivement, pour les études supérieures, c'est pas possible parce qu'il y a pas beaucoup de trucs après le bac. Et aussi, il se trouve que j'ai rencontré là-bas des gens qui, il se trouve, avaient choisi ou leurs parents avaient choisi ce genre de méthode d'éducation. Mais donc ouais, ça demande une grosse discipline. C'est surtout ça qui doit être très compliqué. C'est parce que quand c'est toi qui décides quand tu travailles, ce que je connais maintenant, que je suis mon propre patron et que je fais mes vidéos et moi je les fais quand je veux, c'est une catastrophe.
donc il y a notamment un article dans Le Parisien aujourd'hui en France qui dit c'est comment un examen en ligne et qui nous informe que la plateforme ne supporte pas très bien la surcharge de connexion et qu'il y a aussi des petits incidents techniques.
Ah oui, ça bug.
Voilà, c'est bon.
D'ailleurs, quelqu'un qui maîtrise un petit peu bien ça, on lui pose des questions, il pourrait faire semblant que le truc bug ou le truc hack et en fait, il pourrait réussir à s'en sortir comme ça. Quoi.
Vérifiez bien votre batterie avant de faire l'examen, en tout cas. Chewbacca est avec nous aujourd'hui.
Eh ouais. Et nous allons causer de Léon Bridges. Il y a 3 ans, ce garçon sortait un album, Coming Home, qui allait rencontrer un succès mondial. Et il faut vous dire que quand même tout ça nous paraissait bien normal parce qu'il chante comme un rossignol et qu'il avait donc toutes les... Eh oui, un oiseau. Et toutes les qualités vocales requises pour être plus que remarqué. Alors il vient d'une ville du Texas, Fort Worth, qui a la particularité d'avoir en son sein, en fait, pléthore d'établissements où se tiennent des open mic, c'est-à-dire des endroits où vous allez pousser régulièrement la chansonnette face à d'autres concurrents. Alors c'est une pratique courante dans le hip-hop et chez les humoristes et nous avons tous ici qu'un certain monsieur Meurice a commencé sa carrière avec son célèbre sketch Le Boucher Vegan où il apparaissait sur scène en costume de lapin. Comme quoi, des fois, il suffit d'un rien. Mais revenons à Bridges. Revenons à Bridges parce que lui, notre gars, ne roule pas sur l'or. Il n'est pas l'héritier d'un grand hôtel parisien. Et des fois, sa famille choisit entre la bouffe du soir et l'essence pour l'emmener chanter. Et pourtant, et aussi, Léon n'a pas l'accent du ghetto. C'est un gars de son époque, il écoute que du rap, du R&B d'aujourd'hui. Et plutôt que de faire des allers-retours, dont il n'a pas les moyens, il se fait engager comme serveur et plongeur dans un café où il y a des open mic, justement. Et il chante à la fin de ses services. Et puis un jour, il y a un client qui arrive et qui lui fait remarquer cette ressemblance entre le spectre de sa propre voix et celle du génial Sam Cooke, qui est quand même mort depuis belle lurette. Et alors, Bridges, qui ne sait pas trop où il va, fait marcher la machine du retour vers le futur. Et il épouse une époque qu'il ne connaît pas du tout. Go back to les années 60 et 50. Il adopte le style, les vêtements, le son. Et c'est une époque dont il avouera, à la sortie de son premier album, ne connaître que très peu de classiques de la soul des 60s. Eh ben ouais, ben c'est cette fraîcheur qui va lui porter chance. Et ce qui est fou, c'est que ce circuit d'apprentissage en fait fonctionne encore aujourd'hui et que c'est une source de repérage pour l'industrie du disque et pour d'autres musiciens. Et c'est justement deux membres, alors ça c'est quand même incroyable, d'un groupe de rock du coin qui s'appelle les White Denim, qui font plutôt de la grosse guitare bien vénère quoi, et qui sont plus accros à ce genre de choses, mais qui s'y connaissent très très bien en matière de matos vintage puisqu'ils ont tout à disposition, leur studio, etc., qui lui propose d'enregistrer régulièrement chez eux des disques, et puis on enregistre, on diffuse sur la toile, une maison de disques arrive et Bridges va vendre 900 000 exemplaires de son premier album et finir par jouer un an plus tard chez les Obama à la Maison Blanche, quoi. Donc ce mois-ci, il vient de publier Good Thing, tout va bien, et tout change ou presque, puisque Léon Bridges choisit de se débarrasser de cette image de chanteur un peu coincé dans les 60s. Mais attention, il va garder les fondamentaux, c'est comme pour Monsieur Maurice, on garde le véganisme mais on laisse tomber le costume de lapin. Et le défi de Bridges sur ce nouveau disque, c'est un voyage dans le temps, dans la musique noire américaine, mais il saute une période. En fait, il part des années 70 jusqu'au son d'aujourd'hui, il passe un peu par le jazz, le Philly Sound, la funk et le R&B. Il est malin, l'américain. Car aujourd'hui, en fait, il y a un truc dont il peut plus du tout, là, il en a marre, il est vraiment ras la gorge. Il ne veut plus du tout entendre parler de Sam Cooke, d'Otis Redding ou de Marvin Gaye. Over. Donc il fait un disque qui change vraiment. L'album a pour titre Good Thing et nous écoutons Beyond.
Don't wanna get ahead of myself, feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality in everything. Brings me to my knees, oh. She shines me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything, beyond. I wanna bring her round to meet you. Thinking like a candelina, I know that grandma would have loved her like she was her own. She makes me feel at home, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything, beyond. I give up, I'm in love, try.
Beyond, que nous a fait découvrir Djoubaka.
Ouais, c'est le 10 de l'été, quoi. Allez, on y va.
Ah,
c'est
ouais.
Vachement bien.
L'album s'appelle comment, Djoub?
Good Things, que des bonnes choses.
Ah, vous êtes sur France Inter, par Jupiter. Et c'est Max Bird qui est là, le roi des oisillons,
oui.
Avec son spectacle, l'Encyclospectacle. Il sera à partir du 27 novembre à l'Européen à Paris. Mais il passe dans toute la France. Il y a notamment Bourg-les-Valences, ce sera le 25 janvier, Forges-les-Eaux, Bruguière, tiens, le 2 mars à l'espace Ancan à La Rochelle, et puis à l'espace Julien à Marseille, ce sera le 12 octobre. Vous pouvez consulter les dates. Vous avez un site internet, Max Bird?
Oui, enfin sur Facebook, normalement, il y a tout, voilà. Il y a tout ce qu'il faut.
À côté de
et
vous.
Et à la Cigale, oui, donc le,
oui,
le 8 juin, donc,
la Cigale.
Comme tu dis si bien.
Oui, c'est pour ça que je vous ai laissé dire, vous avez marqué. Les amis, chers auditeurs,
ah,
c'est le moment
c'est
Maurice. Oui.
Ah. Et ben ouais, surtout qu'on connaît dorénavant les conditions de naturalisation pour devenir français. Il faut un CAP Fort Boyard, voilà, option escalade. Si vous avez fait Koh-Lanta, c'est un plus. Mais sinon, c'est cramé. Enfin, je vous le dis, Charline, d'ailleurs, hein, si vous voulez passer de belge à française, présenter une émission de radio, ça suffit pas. Hein, je vois bien que vous faites de l'humanitaire là, avec des chroniqueurs un peu cassos, mais ça suffira pas. C'est 4 étages à main nue minimum. hein, et puis au rythme où vous fréquentez la salle de sport, je crois que c'est pas gagné pour demain. Je rappelle que là-bas, ils vous appellent Belphégor. Il faut faire comme Mamoudou Gassama, qui a mis en PLS Eric Ciotti et ses copains. Alors moi, je regrette simplement qu'il n'ait pas sauvé une femme voilée, parce que là, ils implosaient. On aurait Manuel Valls qui serait effondré sur lui-même, ça aurait été beau. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est toute la France qui rend hommage à Mamoudou, la France des Français et des Françaises que j'ai rencontrés ce matin.
Je suis émerveillée par la force musculaire de ce gars.
Il va être naturalisé français.
Est-ce que... Tant mieux, il le mérite. Plus que tous ceux qui traînent par terre. Celui-là, il le mérite vraiment.
Alors, est-ce que parmi les autres qui traînent par terre, comme vous dites, il n'y en a pas qui pourraient aussi sauver des vies?
Physiquement, il faut pouvoir. Là, c'est un athlète, ce gars-là. Il sera aux Jeux Olympiques l'année prochaine.
Alors, attends.
C'est les médailles.
Ça va un tout petit peu trop vite, là, pour Mamoudou. Il y a trois jours, tout le monde s'en branlait. Aujourd'hui, tout le monde veut le branler. Ça va trop vite. Il est passé de gars qui traînent par terre à porte-drapeau olympique. Il y a un espoir pour Bruno Roger Petit qui traîne par terre devant Macron. Il faudrait bien apprendre l'escalade. Alors, évidemment, ça pose quand même la question de l'accueil des autres réfugiés.
C'est complet. On affiche complet.
Ben oui, mais si on ne l'avait pas accueilli, finalement, il l'aurait pas sauvé.
Non, il faut être français, c'est tout. On leur a pas demandé de venir.
Est-ce que parmi eux, il n'y a pas des gens potentiellement qui pourraient sauver d'autres enfants?
Ah ben ça, qu'ils essayent. Hein. Dès qu'il y en a qui réussit, ça sera bien.
Allez, le grand concours de On sauve des enfants est lancé, amis réfugiés. On lève la tête. Allez, dès qu'on voit un gamin en escalade, je vous rappelle que le record est de 40 secondes. Et plus de 40 secondes, c'est charter. Hein. C'est direct, ça rigole pas. Allez, simple pour Bamako. Je suis désolé, la générosité du peuple français, ça se mérite. On est quand même le peuple qui a inventé Interville. Donc, tout ce qui est grimpette, estimez-vous heureux, il n'y a pas un top à la vachette au milieu. D'accord. Mais alors, attention également sur les règles du jeu. On veut pas trop se faire niquer. Une autre française m'a alerté là-dessus.
On a une arrière-pensée, oui.
Vous pensez que ça peut être faux aussi?
C'est-à-dire, je pense que ce garçon connaissait bien l'endroit. Sincèrement.
Parce qu'il avait déjà escaladé?
Oui.
Ah ouais?
Je pense.
C'est-à-dire qu'il serait entraîné avant de faire ce sauvetage?
Je pense.
Attention, Mamoudou, là! Il y a peut-être bien triche, on veut revoir le ralenti, là! C'est vrai qu'il y a des gestes qui ont l'air sûrs, répétés à l'entraînement, on a peut-être donné la nationalité trop vite. Et en même temps, la triche, ça fait aussi partie de l'ADN de la France. Alors, je le dis, c'est pas, voilà, le déjà regretté Serge Dassault qui nous aurait dit le contraire. Pensez d'ailleurs à Jeannette Bougrabe, quand même, une petite pensée pour elle au passage. Alors, puisqu'on parle théorie, j'en ai une autre récoltée dans les rues ce matin.
Vous savez que ce matin, je lisais sur Internet, il y a un type, il a dit, mais alors si moi je vais au Mali et que je sauve un gamin là-bas, il dit, ils vont me donner la nationalité malienne. Mais j'en veux pas.
C'est vrai, il y a vraiment quelqu'un qui a dit ça?
Bah, c'est écrit dans Internet.
Ah, oui, attention, quand c'est écrit dans Internet, il faut trier. Il n'y a pas que du bon. Moi, je vois la fiche Wikipédia de Chewbacca. Hein, c'est marqué personnage de Star Wars, amateur de LSD et musique. Star Wars et LSD, je vois, mais la musique, bon. Faut trier. Alors, autre question, l'intégration. Le monsieur trouve que le problème, c'est quoi?
C'est de leur donner la capacité de s'identifier ici.
Ah oui, mais si on commence par pas les accueillir, comment
mais
on va faire?
Oui, mais c'est leur donner l'obligation.
L'obligation de quoi?
Et de s'identifier à ici. L'intégration, ça commence pas par nous à s'intégrer à eux, c'est à eux de comprendre comment ils peuvent s'intégrer ici.
Comment ils vont se sentir français si on les a pas accueillis?
Ah, ça c'est sûr, c'est compliqué.
Ah oui, c'est pas simple, j'ai l'impression.
Eh non, c'est pas simple.
C'est pas évident. Disons qu'ils font pas énormément d'efforts. Déjà, ils traversent les Alpes pieds nus. Bah non, on est le pays de la mode. Déjà, je suis désolé. Au moins une paire de chaussettes claquettes. Souvent, ils connaissent rien à notre culture. C'est très rare un réfugié qui s'y connaît en brève, par exemple.
C'est vrai.
Pourtant, c'est l'esprit français qu'Alex a très bien su intégrer. Il viendrait, par exemple, avec un ivre virgule, il confond un policier avec du mafé. Hop, intégré direct. Ils font pas ce travail. Eux, ils fuient la misère, les mains dans les poches. On peut pas les intégrer. Et puisque c'est pas simple, le mieux, je vais vous dire, c'est une bonne métaphore, ce monsieur en a une métaphore d'arbre.
Un arbre, là, il n'est pas adulte, et il a déjà celui-là, il a à peu près 25 ans. Donc un jeune immigré est arrivé ici, mais il n'est pas encore arbre, donc il a vachement de route à faire pour s'intégrer à l'intérieur. Parce qu'une vraie forêt de futaies, c'est 90 ans, 100 ans.
Peut-être parce que dans la forêt, il y a trop de chênes qui donnent trop de glands.
Sans commentaire.
C'est con, je sens qu'elle était bien partie cette métaphore. Avec les glands et ceux qui sont censés nous représenter. Enfin voilà, je crois que Mamoudou sera vraiment intégré le jour où il pourrait être capable d'une belle dissonance cognitive à la française. Bravo aux réfugiés qui sauvent des vies et en garde à vue les Français qui aident les réfugiés. C'est ça la France. Liberté, égalité, absurdité.
Guillaume Meurice, merci. Nous sommes avec Max Bird, l'humoriste de la science, on peut dire ça, Max?
Oui, ça me va bien.
Ouais. Et ses oisillons qui sont ses fans, hein. n'hésitez pas à réagir. Hashtag par Jupiter, Alex Viseur extra vigilant.
Je recueille les oisillons dans le nid de France Inter.
Oh, c'est mignon. Oh, c'est beau.
Mais oui.
Oh, dis donc.
Oui, j'ai une petite carte poésie que je joue trop peu souvent.
Ouais. Je vous vois d'un autre œil d'un coup.
On attend une blague de tub là qui va arriver normalement.
En attendant, le conseil lecture de Juliette Arnaud, eh bien, parlons de cet autre sujet, le moineau friqué. A beau déployer ses ailes, son espèce est en chute libre. Comme une centaine d'animaux et d'insectes en France qui sont menacés d'extinction, même le Figaro Magazine a abandonné l'idée de mettre Éric Ciotti en une pour lancer un SOS espèce en danger avec en couverture le moineau friqué de Voici la chanson.
J'aimerais être un oiseau vers qui être libre comme le vent, comme le vent, et chier sur les passants.
Vous venez d'écouter un extrait de l'œuvre musicale intitulée « Comme des connards » interprété par le groupe musical Les Connards, une formation composée de Michael Youn, Vincent Dezania et Benjamin Morgan, exactement, dont certainement Juliette n'est pas tout à fait innocente. Max Burt connaît les paroles par cœur également. Donc
Il dit cuicui à un moment. Voilà.
Dès que ça dit cuicui, il y a Max Burt. Bon, alors, on profite de votre venue, Max Burt, parce que la disparition des oiseaux, notamment dans nos campagnes, est un sujet qu'on a déjà traité, dont on parle régulièrement, puisqu'on est tous très inquiets. Et comment on fait pour sauver les oiseaux? Est-ce que vous avez un début de
solution? En
fait,
tout est lié à l'agriculture qui est un petit peu... En fait, on est un peu stupide. Je pense que moi, quand je prends l'avion et que je vais prendre des photos d'oiseaux, je sais pas, quand je vais en Amazonie ou à Madagascar, il y a un truc qui est frappant, c'est quand on arrive, il y a la jungle, la perte de vue, et c'est très impressionnant. Et quand on survole la France, c'est des parcelles. C'est effrayant. Parce qu'évidemment...
Ah, vous en avez oublié une.
Oui, parcelles. Il y en avait une petite sur le côté. Et de temps en temps, oui, il y a un petit bois. Mais en fait, évidemment que les animaux, ils sont pas faits comme ça. Il y a une seule espèce de plante, puis une seule espèce de plante. Donc là, il peut pas y avoir de biodiversité dans ces conditions. Et en fait, il y a des solutions. On peut justement en remettant des parcelles, on va dire un peu plus sauvages, un peu partout. Mmh. Et ils le font, je crois, en Angleterre un petit peu aussi. Ils font revenir comme ça les alouettes, ils font revenir des grillons, des trucs comme ça. Mais forcément, où est le profit là-dedans? À part le fait qu'on peut survivre dans quelques années, nous tous.
Il y a aussi comme profit.
Bah ouais, mais c'est pas facile de convaincre les gens avec ça, malheureusement.
Guillaume Meurice, vous faites la moue en voyant cette couverture du Figaro Magazine.
C'est quand même incroyable que le Figaro Magazine, ils mettent un moineau friqué. C'est hallucinant, je sais même pas si on fait exprès de faire cette blague.
Friqué.
Friqué, ouais. Ouais. Moineau avec du fric, quoi. Quitte à mettre un moineau, autant mettre un moineau un peu friqué, quoi.
Max Burt, si la France perd ses espèces avec la manière dont elle organise son agriculture, ses parcelles, etc. Et puis les insectes aussi qui disparaissent.
En fait, c'est surtout ça, c'est la disparition des insectes qui directement... parce que c'est la nourriture principale de tous ces oiseaux. Donc il y a 80%, je pense, des effectifs d'insectes qui ont disparu. C'est affolant.
Ouais. Alors,
après, le Figaro défend la FNSEA toute l'année et ne fait pas le lien en fait, avec la disparition des espèces. Donc,
Oui, mais c'est clair que si on ne change pas la manière de faire de l'agriculture, ça va continuer.
Pourtant, il y a un papier dans le magazine qui parle de l'agriculture. Hein, je vous rassure, si vous ouvrez le dossier.
Ça y est, ouais, c'est de la schizophrénie.
Ouais. Comment vous dites de la cognitive, de la
dissonance cognitive.
Dissonance cognitive, ouais. Voilà. Mais si la France perd ses espèces, finalement, et heureusement que la Guyane, c'est la France pour remonter les statistiques.
Oui, bah après, c'est plus facile, c'est l'Amazonie. Mais on parle souvent de la déforestation tropicale. Et c'est vrai qu'on a des gros massifs forestiers qui sont entaillés sur les côtés, tout ça. Mais ça reste un bloc intact, par exemple, l'Amazonie. Donc là, j'ai envie de dire, le fonctionnement de l'équilibre à l'intérieur fonctionne. Nous, le problème, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est tout est séparé, là, c'est la même espèce de plante partout. Donc en fait, les animaux, il y a des espèces qui arrivent à s'en sortir là-dedans, il y en a une, et on la retrouve partout, et toutes les autres disparaissent. Mm-hmm. Et en fait, si on continue à déséquilibrer tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les gens, quand ils entendent biodiversité, c'est un truc, c'est pour les amoureux de la nature. Moi aussi, ça m'embête de savoir qu'on voit plus d'alouettes, mais au fond...
Comme dirait Routel-Krieff, c'est un truc de bobo.
Ouais, voilà, c'est ça. On se dit, en fait, biodiversité, il faut remettre ça dans le cœur de l'humain. La biodiversité, c'est
indispensable. Sans biodiversité, oui. on meurt tous. Mmh. Donc en fait, c'est ça qu'il faudrait remettre. C'est pas juste une préoccupation d'écolo.
Vous qui avez un public, je pense, plutôt jeune sur les réseaux, sur YouTube, tout ça, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont plus conscients que la génération d'avant ?
Franchement, oui. Je suis très content de voir ça, justement, parce que dans les commentaires, on va dire, il y a aussi ce petit truc du « on bondit dès qu'il y a quelque chose qui peut être considéré comme une attaque pour un combat ». Donc, il y a peut-être aussi ça. Il n'y a pas forcément une vraie conviction. Mais dès qu'on voit quelqu'un qui va justement aborder des sujets comme ça, il y a une vraie prise de conscience chez les jeunes. En tout cas, ceux qui commentent les vidéos. Je ne sais pas si c'est très représentatif. Mais globalement, ça donne espoir. Quand on lit les commentaires, on voit des trucs parfois un peu stupides, mais souvent des trucs assez construits, assez réfléchis. Donc j'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience chez les jeunes.
Max Bird, vrai amoureux des oiseaux. Je rappelle que vous avez pris une année sabbatique en Guyane pour photographier les oiseaux. Vous avez même ajouté à la liste
trois oiseaux à la liste.
Ouais. Que vous avez pu observer pour compléter la liste des
oiseaux
espèces
de Guyane, ouais.
En Guyane. Max Bird avec nous, avant qu'il soit en tournée dans toute la France. Juliette Arnaud avec nous aussi.
Et avec un oiseau nocturne. Puisque aujourd'hui, c'est un livre pour raconter l'histoire d'une boîte de nuit. Alors, j'entends déjà Charline se hérisser. Non, je l'entends, j'ai une excellente ouïe, Charline. Et je comprends, si on pense club, boîte de nuit, on pense pègre, on pense excès en tout genre, on pense élocution laborieuse et pensée ralentie, euphorie, moyen naturel, et c'est
pécho,
pas
faux. Il y a pécho aussi.
Et pécho également.
Bien sûr, c'est pour ça
qu'on
va.
Vouloir causer d'un club, d'une boîte de nuit, dans une émission dont le but est de changer le monde, sérieusement Juliette ? Oui, oui, sérieusement, parce que là, c'est pas pareil. Cette boîte de nuit a changé le monde, tout simplement. Enfin, un genre de monde, en tout cas. Alors, c'est l'Hacienda, c'était à Manchester, Grande-Bretagne. Bon, déjà, c'est l'Hacienda avec une cédille sous le C, donc une cédille qui n'est pas nécessaire. Et ça, c'est finalement un thème récurrent de l'histoire de l'Hacienda, rajouter des trucs pas nécessaires. Le club anglais le plus célèbre, raconté par un des types qui l'a inventé, est tenu. Enfin, tenu... Tenu, c'est un grand mot. Le sous-titre du livre étant « La meilleure façon de couler un club ». Donc là, forcément, on se doute bien que la philosophie budgétaire des gestionnaires de l'Hacienda fut plus proche de Rentan Plan que de Raymond Barre. Et c'est ça qui est charmant, parce que ce plus célèbre club au monde fut un gouffre financier façon faille de San Andreas tout au long de son existence, de 1982 à sa destruction en 2002. Personne ne s'est enrichi. Tout le monde a fait n'importe quoi et c'est raconté par Peter Hook de manière drôlissime. La raison de pourquoi est-ce qu'ils ont fait n'importe quoi, c'est parce qu'ils voulaient faire, et je les cite, un lieu agressif, populaire et dangereux, mais aussi arty et intello. Et le faire vraiment. Quel autre club au monde a été désireux d'accueillir toutes les classes populaires et a offert une fois par mois l'entrée, la nourriture et la boisson gratuite aux sans-abri? Je pose la question, quel autre club? D'ailleurs, dès le premier jour, ce fut très clair, pas de code vestimentaire, tu peux rentrer sapé comme tu veux. L'argent, le nerf de la guerre, venait de New Order, ex Joy Division. Ian Curtis, le chanteur, venait de se donner la mort en plein succès. Les survivants, dont le bassiste et auteur du livre, Peter Hook, et les patrons de leur label, Factory, ne se laissent pas abattre. Il dit cette phrase, il faut construire l'Hacienda, un lieu qui a été inventé pour rendre à Manchester ce que Manchester leur avait donné. Ne pas faire comme les Beatles, c'est-à-dire trouver le succès à Liverpool et aller claquer son blé à Londres en installant par exemple leur boîte Apple sur Savile Row. Et ça, ils vont le réussir. Ils vont faire briller grâce à l'Hacienda et à sa dinguerie sans limite Manchester jusqu'à ce que ça invente carrément un mot, Madchester, un courant musical des groupes d'origine mancunienne qui mélangeaient des courants musicaux. Et à l'époque, vraiment, c'était inimaginable, mélanger par exemple le rock et la house. Le monde de la musique, la jeunesse clubeuse a les yeux braqués sur Manchester. Les étudiants s'inscrivent en masse dans les facs du coin. Des jeunes gens talentueux, mais parfaitement inconnus à l'époque, viennent par exemple y bosser en cuisine. Laurent Garnier, pardon quoi. Et après, il y a joué. Qui c'est qui balayait la salle? Les frères Gallagher, qui étaient super pas Oasis. Et une petite américaine, parfaite inconnue en Grande-Bretagne, vient y chanter deux titres en playback. Elle se fait appeler Madonna. Et je cite Peter Hook. C'était la première étape de son ascension vers la domination mondiale. Dieu nous pardonne. Alors même si Peter Hook ne cesse tout au long du livre de nous seriner la chose suivante, si vous désirez une existence bien tranquille, après il l'écrit en majuscule, n'ouvrez jamais de putain de club. Quand même, on en rêve. Quand il écrit cette chose, j'aimais la manière qu'avaient les fenêtres de l'Hacienda de vibrer au son des basses. Qui voudrait avoir des fenêtres dans un nightclub ? nous. Ouais, 12 fichues fenêtres, toutes tremblantes, tel un fervent mollah, nous en joignant à la prière. Eh ben, on peut que se prendre à regretter d'avoir loupé ce moment violemment païen, mais fervent. Heureusement, Peter Hook a repris son bâton de pèlerin et fouillé ses souvenirs. Les 12 fenêtres ne vibrent plus, il reste un livre. Merci, bisous, merci.
Publié où ça, Juliette ?
Le mot et le reste. L'Hacienda, avec une cédille sous le C, Peter Hook.
Merci, Juju. Voilà qui a fait vibrer Chewbacca également, ouais. N'est-ce pas ?
Trop classe, l'Hacienda, hein, toute l'équipe. Il y a un film aussi qui est sorti sur cette période-là. Le garçon qui était en cuisine, Monsieur Garnier, s'appelait DJ Pedro à l'époque.
Ça lui a bien passé.
Voilà pour le conseil de lecture de Juliette Arnaud. Et puis, avec Max Bird, abordons ce dernier thème, car parmi tous les complots, l'un des plus répandus, c'est celui des reptiliens qui auraient infiltré notre élite et qui manipuleraient les humains par télépathie. Alors, est-ce que balayer cette théorie complotiste d'un rire dédaigneux, mais ça, c'est pas notre genre.
Non.
Ce serait faire montre d'une paresse de la pensée, ou est-ce qu'il faut s'employer à démonter tout ça lorsqu'on est scientifique et pour l'histoire aussi, comment fait-on ?
Non, mais là, on le reconnaît bien. Hitler en 1977, en vacances à Rio del Plata avec Daniela. Regarde.
Ah oui, c'est vrai qu'il pouvait prendre des vacances, hein, comme il n'y avait plus trop de boulot à l'époque.
Et là, 1961, Moscou. Il avait secrètement rendu visite à Khrouchtchev pendant la crise des missiles.
Ah. Et le 11 septembre 2001, il était où ?
Moi, je me souviens plus.
Non, mais il n'y a jamais eu le 11 septembre 2001.
Ah oui, ouais, c'est vrai, on est bêtes.
Damien Ferdel dans Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2. C'est un article paru sur le site Ouzbek Erika qui pose cette question aussi sur le complot des complots, les reptiliens. Est-ce qu'il faut s'évertuer à démonter ces théories avec les armes de la science ou finalement les balayer d'un revers de la main ?
Moi, je pense que... Moi, j'y crois. Moi, je pense qu'il y a...
À quoi vous croyez à quoi ? Attendez,
parce que tous les dinosaures n'ont pas disparu. c'est prouvé. Certains sont devenus des oiseaux.
Des poules,
voilà. Tous les oiseaux, donc, techniquement, sont des dinosaures. Ah. Et certains scientifiques, à l'époque... Enfin, à l'époque, non, pas à l'époque des dinosaures, mais certains scientifiques se sont dit, s'il n'y avait pas eu d'extinction massive des dinosaures, certains animaux déjà très intelligents, les dromaeosauridés, troodontidés, donc le... vulgairement des vélociraptors, quoi, seraient devenus l'espèce dominante. Ils se seraient redressés un peu plus, leur cerveau aurait encore grandi, leurs yeux se seraient devenus grands. Et ils ont fait des représentations de ces vélociraptors humains qui ressemblent beaucoup à ce que tous ces complotistes imaginent, quoi. Moi, j'y crois, j'ai envie de penser qu'il y a des vélociraptors parmi nous.
Mais c'est la passion du scientifique, ça.
Ouais,
vous êtes animé, alors ça, c'est...
Non, moi, j'aime bien, grosso modo, qu'il y ait des théories tellement farfelues parce que ça rend... les autres qui étaient les plus farfelus, un peu plus crédibles. Donc en fait, ça permet de se situer au milieu et de quand même se poser des questions sur deux, trois trucs pas clairs.
Mais ce qui est assez amusant, c'est que ce que raconte aussi cet article de Ouzbek Erika, c'est qu'on vit dans un monde technologisé. Il n'y a jamais eu autant de puissance et de la science aussi pointue, autant de technologie, etc. Et c'est là qu'apparaissent justement les théories les plus farfelues. Vous les voyez aussi, enfin, en tant que YouTuber.
Oui, la Terre est plate, tout ce genre de trucs. Et c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Et c'est... Moi, je pense justement que l'apparition des technologies et le fait que les gens peuvent communiquer énormément entre eux, c'est pour ça que ces théories sont aussi vivaces aujourd'hui. Parce qu'avant, bon, t'arrivais, tu disais, voilà, je pense qu'il y a des reptiliens, on fait, oui, bon, voilà, va prendre tes médocs. Enfin, tu vois, on s'en fout. Alors là, tu peux trouver des gens qui en parlent sur Internet et qui te disent, oui, c'est vrai, et qui te mettent des arguments. Je pense que justement, à l'heure des réseaux sociaux, ces théories-là, ils n'ont pas fini de faire parler d'elles.
Max Bird, nous avons un... Petit sketch,
évidemment, de fin d'émission. Hein, vous savez ou vous ne savez pas, mais vous allez jouer.
Si, je sais.
Le rôle de
Max. Je me suis toujours demandé si ça avait été préparé. mais j'ai écouté la dernière fois pour IBI et a priori, non. C'était
pas mal. Je connais bien l'émission.
Si vous allez être meilleur que les jumelles.
C'est ça, il faut pas tromper.
On va faire une vidéo YouTube. Okay. On va déchirer des idées reçues, ce que vous faites sur votre chaîne. Attention, c'est parti.
Idée reçue numéro 1, le glyphosate est mauvais pour la santé.
J'ai soif.
Que puis-je vous servir, monsieur Stéphane Travers?
Je prendrais bien un petit verre de glyphosate.
À votre santé, monsieur le ministre de l'Agriculture.
Oh, quel délice, ce glyphosate.
Bon, là, on s'attaque à du lourd.
Il y a bon glyphosate.
Au moins, il est cohérent.
Quand je fais pipi dans la nature, ça tue les insectes qui piquent.
Exactement, le glyphosate est un excellent moyen de se protéger des piqûres d'insectes.
Saleté d'abeille.
Là où le glyphosate passe, l'abeille trépasse.
Et plein d'autres connasses de bestioles.
En ce sens, on peut donc dire que le glyphosate est bon pour la santé.
Il est reçu numéro 2. La permanente de Valérie Pécresse est indestructible.
Tentons de la piéger. Madame Pécresse.
Vive le vent.
vent, vite le vent.
Contre toute attente, ici, Madame Pécresse ne parle pas de ses discours.
Avec moi, l'Île-de-France a gagné un nouveau souffle.
Vous remarquerez à quel point Valérie Pécresse ne manque pas d'air.
J'annonce un remboursement de 50% du Pass Navigo à tous les abonnés SNCF pour les mois d'avril et mai.
Et rien pour les usagers du Vélib.
Pardon, mais vous me voyez sur un Vélib, vraiment?
Vous savez pas faire du vélo?
C'est surtout que le vélo serait une catastrophe pour ma coiffure.
CQFD, la permanente de Valérie Pécresse n'est pas indestructible.
Idée reçue numéro 3. On n'utilise que 10% de son cerveau.
Bah oui, alors!
Encore vous, Valérie?
Ah bah non, moi c'est Nadine.
Qu'est-ce qui ne vous vaut votre présence, Nadine Morano?
Bah j'ai entendu cerveau, alors bah voilà.
Bah vous tombez drôlement bien.
Hein, dès qu'il s'agit d'intelligence, moi je suis incollable.
D'après vous, utilisez-vous la totalité de votre cerveau?
Bah tout, absolument tout, là je suis au max.
Alors, on peut utiliser 100% de ses capacités cérébrales, on peut utiliser 100% des capacités de son cerveau, si celui-ci est 90% plus petit que la moyenne.
Il est reçu, numéro 4, Juliette Arnault serait sobre.
La voix?
Oui.
Là, vraiment, je peux rien faire. Alors, recollez le papier que vous venez de déchirer.
Recollez.
Max Bird était avec nous. Merci beaucoup, Max. Je rappelle qu'avec l'Encyclospectacle, vous êtes le 8 juin à La Cigale, à Paris, que vous serez aussi le 27 novembre à l'Européen, à partir du 27 novembre,
tout
bien
à
sûr.
Fait.
Et puis, dans toute la France, à Lyon, à Hyères, Marseille, Nice, Bordeaux, à Nantes, Amiens, à Saint-Cyr-sur-Loire, Forges-les-Eaux, Bruguière et La Rochelle le 2 mars, à l'Espace Encan. Toutes ces dates sont sur votre Facebook, Max Bird, et on recommande aussi toutes vos vidéos, notamment celles sur l'alcool. Si vous ne connaissez pas Max Bird, c'est une porte d'entrée. Merci beaucoup. En guise de mot de la fin, une pensée aux étudiants qui passent leur partiel depuis leur chambre, derrière leur ordinateur.
Si notre fils, il a triché, faut le comprendre parce que c'est trop de pression. Votre trimestre à l'essai, tout, la nouvelle vie, tout, il a voulu bien faire.